France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Après que des familles entières ont été décimées dans le gigantesque incendie d'un hôtel de luxe en Turquie, la douleur a laissé la place à la polémique. Nous serons sur place dès le début de ce journal. On se rendra au Parlement de Strasbourg pour voir comment les députés européens entendent répondre à la pression exercée par le nouveau président américain en matière de droits de douane. L'actualité en France, ce sont notamment toutes les questions autour de la stratégie à adopter pour parvenir à une loi sur la fin de vie. On tâchera également de décrypter ce nouveau record d'intérêt versé l'an dernier sur les livrets A. Et puis avec nos invités aujourd'hui, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, à l'occasion de la sortie en librairie de leur livre « Enquête, les juges et l'assassin », on reviendra sur les failles de l'État dans la gestion du Covid. La Turquie pleure ses morts. Ce mercredi a donc été décrété journée de deuil national. Le dernier bilan de l'incendie qui a dévoré un hôtel de luxe dans la nuit de lundi à mardi fait état d'au moins 76 morts. Et même si les causes de cette tragédie demeurent encore inconnues, la colère gronde à présent que les témoignages des survivants viennent raconter cette nuit d'horreur au cours de laquelle aucune alarme incendie ni aucun détecteur de fumée ne s'est déclenché dans cet établissement presque entièrement recouvert de bois, laissant ainsi peu d'échappatoire aux vacanciers endormis. Un hôtel de luxe de 12 étages où les escaliers de secours faisaient par ailleurs cruellement défaut et dont l'emplacement au sommet d'une falaise pour disposer d'une meilleure vue panoramique aura compliqué l'intervention des pompiers, lesquels ont mis près d'une heure à rejoindre cette station de ski pourtant bondé en pleine vacances d'hiver nationales. Les précisions depuis Istanbul de notre correspondante Marie-Pierre Véro.
Les drapeaux en berne pour un drame qui a bouleversé le pays. Les vacances d'hiver viennent à peine de débuter et la station de ski de Kartalkaya avait fait le plein. Les flammes ont dévoré l'hôtel de luxe qui s'est embrasé au cœur de la nuit, prenant au piège des dizaines de vacanciers. Sur des vidéos, on entend les appels à l'aide, les cris de ceux qui ne trouvent pas d'issue alors qu'une épaisse fumée envahit les couloirs. Certains paniqués sautent par la fenêtre, d'autres nouent des draps pour en faire des cordes. Beaucoup demandent où sont les pompiers. Ils mettront près d'une heure à rejoindre l'hôtel perché à 2000 mètres d'altitude. La colère gronde. Les rescapés racontent que les alarmes incendie et détecteurs de fumée n'ont pas fonctionné. Aucune issue de secours n'est visible à l'extérieur du bâtiment. Le président Erdogan promet que toute la lumière sera faite.
Je vous le dis clairement, ceux qui ont provoqué un tel désastre, ceux qui ont fait preuve de négligence et de faute, devront rendre des comptes à la justice.
Il est attendu pour les funérailles de 7 membres d'une même famille, proche d'un responsable local de son parti, l'AKP. Ce matin, les visages souriants de familles entières décimées, d'enfants qui ont péri dans l'incendie s'affichent à la une de la presse. L'opposition dénonce le laxisme dans les normes de construction, le décret qui a assoupli les règles en matière de sécurité incendie. Elle s'interroge aussi sur l'absence de pompiers dans une station bondée au moment des vacances. Ce mercredi est jour de deuil, mais la polémique ne fait que commencer.
À Gaza, les célébrations de la trêve ont largement laissé la place à la sidération.
À mesure que les dizaines de milliers de familles déplacées par la guerre tentent de rentrer chez elles, se dévoile un paysage de dévastation, des étendues de décombres comme autant de cimetières, des zones entières sinistrées, impropres à la vie. Dans le même temps, en Cisjordanie occupée, là-bas, le fracas des armes a vite fait de réveiller à nouveau la haine entre Israéliens et Palestiniens. Tirs, explosions depuis hier à Jenin et en particulier son camp de réfugiés. L'État hébreu a lancé une opération militaire d'envergure qualifiée d'antiterroriste, dont le dernier bilan fait état de 10 morts, de quoi non seulement hypothéquer l'espoir de parvenir un jour à une paix durable, mais aussi fragiliser la trêve entre Israël et le Hamas, entrée en vigueur dimanche dernier dans la bande de Gaza. En attendant, et selon les termes de l'accord, 4 nouveaux otages doivent être libérés samedi prochain. Notre envoyé spécial à Tel Aviv, Virginie Pironon, a rencontré la cousine d'Agam Berger, une jeune soldate de 20 ans capturée par le Hamas le 7 octobre. Témoignage.
Le 7 octobre 2023, Agam Berger, alors âgée de 19 ans, venait tout juste de commencer son service la veille comme observatrice militaire sur la base de Nahal Oz. La jeune femme est kidnappée avec 6 autres soldats. Sa famille n'a eu aucune nouvelle d'elle depuis novembre 2023, quand de premiers otages ont été libérés. Sa cousine, Ashley Waxman-Bakshi.
Un des otages est rentré avec un message pour Shlomi, le père d'Agam. Il lui a dit « J'étais à l'instant avec Agam, elle te souhaite un bon anniversaire ».
Ashley veut croire que, comme les trois otages libérés dimanche, sa cousine, violoniste confirmée et dont la sœur jumelle est également dans l'armée, sera libérée en bonne santé.
Bien sûr que je veux y croire. Il faut faire attention pour ne pas être déçu par la suite. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai hâte.
Ashley n'en peut plus de cette attente interminable. Elle passe toutes ses journées, place des otages, aux côtés des autres familles.
C'est ridicule qu'on ait des listes qui donnent des priorités sur les gens. On est en 2025. C'est légitime le fait que des personnes sont utilisées comme monnaie d'échange dans un conflit. On fera tout pour les ramener à la maison, tous, que ce soit sur leurs deux jambes, pour qu'ils se remettent, ou même pour des funérailles décentes.
Ashley dit avoir un point commun avec sa cousine. Toutes les deux adorent se maquiller. Son coffre de voiture est plein de maquillage pour lui offrir le jour de sa libération.
En Colombie, 6 jours seulement auront suffi à raviver les heures les plus sombres d'un conflit sanguinaire, des affrontements entre narcotrafiquants pour le contrôle des lucratives plantations de coca ont fait 100 de morts, un carnage. Des dizaines de milliers de personnes ont également été contraintes de fuir face à cette soudaine flambée de violence entre guérillas. Quant aux autorités, après avoir déclaré l'état d'urgence, elles n'ont eu d'autre choix hier que d'envoyer les forces spéciales pour tenter de reprendre le contrôle.
À peine investi, Donald Trump a lancé sa campagne de revanche politique.
Et ce matin, il s'en est pris avec virulence à l'évêque de Washington, dont il a exigé des excuses au lendemain d'un sermon dans lequel elle s'était inquiétée de la peur semée par le président américain chez les immigrants et les membres de la communauté LGBT. Dans le même élan, le nouveau locataire de la Maison-Blanche a pris un autre engagement, celui de venger la trahison dont il juge que les États-Unis ont été victimes. Après l'élection de Joe Biden, il a ainsi déclaré avoir enjoint à son équipe de destituer plus de 1000 personnes nommées par la précédente administration. Et puis, les menaces proférées par Donald Trump vont bien au-delà, en réalité, des seules frontières américaines. Hier soir, le président a notamment confirmé qu'il relèverait bien les droits de douane pour les produits européens, obligeant ainsi le vieux continent à se positionner. Or, entre les partisans d'une ligne de fermeté d'un côté et ceux qui souhaitent davantage négocier, voire transiger de l'autre, eh bien, c'est peu dire que les débats font rage à Strasbourg sur la bonne stratégie à adopter. Le Parlement est justement réuni en ce moment même en session plénière. Fabien Cazot a suivi pour nous les discussions sur place. Faut-il négocier ou non avec Donald Trump ?
Parmi les leviers de négociation avec Donald Trump, il y a les achats de gaz américain par les Européens. En acheter davantage permettrait de rééquilibrer la balance commerciale, aujourd'hui favorable aux Européens, ce qui justifie aux yeux de Donald Trump l'augmentation des tarifs douaniers aux États-Unis. La droite et la Commission européenne sont plutôt sur cette ligne, tandis que les eurodéputés écologistes comme Marie Toussaint plaident au contraire pour une fermeté totale face au nouveau président américain.
L'Union européenne a le devoir impératif de viser la pleine souveraineté. La souveraineté énergétique, évidemment, à l'égard de Donald Trump et de son gaz de schiste. La souveraineté en matière de voitures, de batteries, de technologies propres. C'est dans cette direction-là qu'il faut avancer, plutôt que d'essayer d'entrer dans des compromis supposément gagnant-gagnant. Et il faut espérer qu'il y ait une prise de conscience qui se transforme en une réaction de la part de l'Union.
Autre sujet de crispation, les dépenses militaires. Donald Trump demande aux Européens d'augmenter drastiquement leur budget de défense. Un effort budgétaire serait-il de nature à amadouer le nouveau locataire de la Maison-Blanche ? En tout cas, la marche est haute. Il demande aux Européens d'atteindre le niveau de 5% de leur richesse nationale, ce qui pour la France représenterait un surcoût de plusieurs dizaines de milliards d'euros.
Une visite de courtoisie en forme d'adieu.
Le président Emmanuel Macron recevra d'ici une heure le chancelier Olaf Scholz pour un déjeuner à l'Élysée, sans doute l'un de leurs derniers grands rendez-vous bilatéraux, puisque d'ici un mois seront organisées en Allemagne des élections législatives pour lesquelles le conservateur et chef de l'opposition outre-Rhin Friedrich Merz est donné favori. C'est un nouveau record pour les livrets d'épargne très prisés des Français. La Caisse des dépôts l'a annoncé ce matin, les intérêts versés sur le livret A, mais aussi le livret de développement durable et solidaire ont atteint le montant inédit de 16,80 milliards d'euros l'an dernier. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
En réalité, ce record était en partie prévisible puisque depuis quelques années déjà, on le sait Diane, les Français n'ont jamais autant épargné.
Oui, c'est une habitude prise lors de la pandémie de Covid-19. Les confinements, l'inflation, la guerre en Ukraine, l'incertitude générale sur l'avenir, tout cela a poussé les ménages à stocker. Ils mettent de côté désormais et environ 18% de leurs revenus. C'est 3 points de plus qu'en 2019. Résultat, en 2024, les dépôts des épargnants français sur leurs livrets dépassent donc largement les retraits. L'écart est de plus de 21 milliards d'euros. Le montant total stocké sur ces deux livrets est également à son plus haut niveau, 603 milliards au 31 décembre 2024. Et avec les taux d'intérêt élevés à 3%, on aboutit donc à ce chiffre record des intérêts versés. Reste à savoir si cette passion des Français pour les livrets d'épargne va durer. Le ministère de l'Économie a annoncé la semaine dernière baisser le taux du livret A. Il passera au 1er février prochain de 3% à 2,4%, une diminution inédite depuis début 2020. Elle suit le ralentissement de l'inflation. C'est aussi une manière pour l'exécutif d'inciter les ménages à dépenser plus leur argent. La consommation des ménages est en effet atone depuis plusieurs mois, ce qui pèse sur les perspectives de croissance.
Merci Diane Berger. Faut-il y voir déjà les premières prémices d'un bras de fer entre le Premier ministre et la présidente de l'Assemblée nationale ? Toujours est-il qu'hier, Yael Braun-Pivet s'est dite opposée à la volonté de François Bayrou de scinder le projet de loi sur la fin de vie en deux textes, l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. Hier, à peine le chef du gouvernement avait-il fait part de sa proposition aux députés macronistes qu'il s'est attiré les foudres de tous les défenseurs de l'aide active à mourir. Pourquoi ? Parce que ceux-ci redoutent, le cas échéant, de ne pas pouvoir aboutir à une vraie évolution législative sur l'euthanasie. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Thomas.
Et de fait, séparer donc les deux sujets comme le propose aujourd'hui François Bayrou, c'est justement, Rosalie, une demande des adversaires du suicide assisté.
Il n'est pourtant pas du tout question d'abandonner ce sujet. Promesse à l'instant de la porte-parole du gouvernement Sophie Prima, venue des bancs de la droite sénatoriale, assez gênée par l'aide à mourir, elle défend la position de François Bayrou.
C'est un engagement assez fort du Premier ministre qui est de pouvoir donner la liberté aux parlementaires de répondre à chacune des deux questions qui nous sont posées. Quand vous êtes un parlementaire et que vous devez en même temps répondre à la question sur l'accès de chacun aux soins palliatifs et sur l'aide active à mourir, en réalité, vous n'avez pas de liberté sur aucun des deux choix, puisque l'un engage l'autre.
Mais cette petite musique, ils la connaissent, les partisans de l'aide à mourir. La séparer des soins palliatifs, c'est aussi permettre à ses détracteurs de se dire « on a traité les soins palliatifs, c'est bon, pas la peine d'aller plus loin », ce que dénonce le député MoDem, Olivier Falorni.
Et moi, je n'accepterai pas qu'on reporte à nouveau au calendrier grec un texte qui est attendu par des millions de Français qui nous regardent.
Il a redéposé une proposition de loi qui reprend le texte unique interrompu par la dissolution. Déjà plus de 230 signataires, tout est prêt. Alors pourquoi repartir d'une feuille blanche ?
De toute façon, il n'y aura pas de projet de loi gouvernemental sur l'aide à mourir. Parce que vous avez remarqué qu'il y a dans ce gouvernement un certain nombre de ministres qui en font une ligne rouge. S'ils devaient être séparés, ces deux textes, ils ne pourraient être que d'initiatives parlementaires.
C'est bien qu'on est en train d'essayer de noyer le poisson, redoutent plusieurs défenseurs de l'aide à mourir, qui rappellent qu'Emmanuel Macron lui-même s'est engagé déjà deux fois à faire avancer ce sujet, croisant les doigts pour qu'il ait encore le poids suffisant pour y parvenir.
Merci Rosalie Lafarge.
Jusqu'à quel point le gouvernement est-il coupable de ne pas avoir suffisamment anticipé la crise sanitaire de 2020 ?
Et peut-être même d'avoir menti pour combler ses lacunes. Aujourd'hui paraît un livre enquête, Les juges et l'assassin, dans lequel Gérard Davet et Fabrice Lhomme reviennent sur les 6 premiers mois de la crise du Covid-19, ou quand on apprend comment les préoccupations politiques de l'époque ont largement pris le dessus sur les multiples alertes lancées. Tarrasch Legal a rencontré les deux journalistes d'investigation. Ils sont aujourd'hui les invités de la rédaction.
Gérard Davet et Fabrice Lhomme, bonjour.
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 On va pas tout résumer en 5 minutes, c'est impossible. Mais parmi les choses frappantes quand on lit votre ouvrage, on s'intéresse bien entendu à la pénurie de masques qui, à ce moment-là, frappe la France alors qu'on est en pleine pandémie. Et il y a une scène où les enquêteurs vont pouvoir aller, a posteriori bien sûr, hein, à l'endroit où normalement se trouvent les stocks stratégiques de masques de l'État français. Qui veut me répondre ? Fabrice Lhomme.
Alors effectivement, les juges se sont rendus dans des entrepôts gigantesques qui sont situés à Marolles, qui est un tout petit village qui est sous surveillance militaire, parce que c'est là qu'effectivement sont conservés les dispositifs de protection pour les citoyens en cas de crise sanitaire, des masques, des blouses, etc. Et en fait, tout part à volo dans cet entrepôt où il y a des frigos géants qui doivent contenir des produits qui ne doivent pas se laisser périmer, qui sont en fait hors d'état d'usage. Il y a
Depuis des semaines, des mois même.
Même des années, des choses qui ne sont pas réparées. Il y a des masques qui sont périmés. Il y a des masques qui présentent des dates de péremption complètement loufoque jusqu'en 2099 parce qu'il y a des bugs informatiques. Enfin, on découvre, enfin les juges découvrent et nous dans leur foulée, que l'entrepôt où devait être conservé les réserves stratégiques de l'État en fait était géré en dépit du bon sens.
Et ce qu'on apprend aussi, Gérard Davé, c'est qu'il y a une forme de mensonge quand même qui transparaît à travers le livre autour de cette pénurie. Ça paraît quand même assez clair, hein, rétrospectivement.
Très clairement, parce que dès le départ, dès début janvier, Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la Santé, essaye de savoir ce qu'il en est des masques. Donc ça veut bien dire que dès le départ, il sait que c'est essentiel. Et ses équipes lui disent, bah, il en reste 65,9 millions de masques chirurgicaux. Et nous sommes là début janvier, contre 1,6 milliard 10 ans plus tôt. Et là, Jérôme Salomon, qui est un spécialiste, sait qu'il y a un problème. Dès lors, ils vont s'appliquer à masquer la pénurie, c'est le cas de le dire, en essayant d'induire en erreur la population, en disant le masque n'est pas essentiel, et puis de toute façon on en a largement assez. Ce qui était doublement faux.
Et alors ces politiques n'ont pas vraiment rendu de compte jusqu'à présent, mais à un moment donné, tout de même, la représentation nationale a souhaité les interroger. Et il y a une scène incroyable dans votre ouvrage, où vous rappelez que pendant la mission d'information de l'Assemblée nationale, Agnès Buzyn a été entendue. À l'époque, elle n'était déjà plus ministre de la Santé, mais enfin, elle avait quand même été en charge du dossier. Elle est entendue, et là, véritablement, elle co-organise, on peut dire, avec au moins un député de cette mission d'information, sa propre audition.
Oui, ce qui quand même est assez troublant, parce que cette mission d'information est censée agir de manière totalement indépendante, au nom du peuple français. Et là, on s'aperçoit de quoi ? C'est que cette ministre, elle est tellement paniquée qu'elle va en arriver, par exemple, à demander à son Jérôme Salomon préféré, c'est-à-dire le directeur général de la Santé, « Je ne sais pas faire la différence entre une épidémie et une pandémie, peux-tu m'aider ?» C'est quand même accablant. Et ensuite, derrière, encore pire, elle a tellement peur de cette audition qu'elle va demander à des membres de la mission d'information, Renaissance, de l'aider à préparer. Et pas seulement de l'aider à préparer, ils vont lui transmettre des documents confidentiels, la liste des questions. Ils vont, en quelque sorte, travailler en sous-main cette mission d'information, en faisant en sorte qu'elle ne soit pas mise en difficulté. Et ça, ça reste un problème, quand même.
Ben oui, parce qu'il y a comme un mélange des pouvoirs. Enfin, un pouvoir exécutif, pouvoir législatif, théoriquement, sont quand même séparés, même si on a des politiques à la tête de nos institutions. Mais bon, et dans le mélange des genres, il y a aussi, Fabrice Lhomme, cet épisode où vous remontez jusqu'à l'Élysée et la question se pose à un moment de savoir si les juges vont pouvoir aller entendre les collaborateurs les plus proches d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est une question légitime puisque, alors certes, le président de la République lui-même est couvert par une immunité qui le met à l'abri des juges. On peut discuter de la légitimité de cette disposition, mais enfin, c'est la loi. Les juges, évidemment, respectent la loi. En revanche, les conseillers, a priori, ils peuvent répondre aux juges. Sauf que il y a eu un vent de panique quand les juges ont envoyé des courriers pour convoquer des gens. Et donc, il y a eu des réunions secrètes. Et puis, il y a eu une magistrate en détachement à l'Élysée qui a œuvré pour le président de la République et qui a, on va dire, préconisé que tout le monde, notamment les conseillères, s'entendent sur une seule version avant d'aller voir les juges. Ce qui est quand même assez ennuyeux, parce que normalement, quand on dépose, surtout à titre de témoin, on est là pour dire la vérité.
Normalement, on prête serment aussi.
On prête serment, ce qui fait qu'on normalement, on n'a pas le droit de mentir. Donc, il y a des notes qu'on publie qui sont totalement confidentielles et qui sont assez savoureuses, où l'on voit comment on essaie de tourner les choses pour conseiller aux collaborateurs du président de ne pas mentir, mais sans dire vraiment la vérité. C'est assez hallucinant.
Au terme de votre livre, quel est votre sentiment face à ces politiques qui sont encore au pouvoir pour beaucoup d'entre eux ?
Moi, personnellement, en tant que journaliste, mais aussi comme citoyen, parce qu'on a été bouleversé avec Fabrice par les récits des victimes qu'on a été recueillir, hein. Il ne faut jamais l'oublier. Eh bien, je suis assez atterré par cette capacité qu'ils ont à ne pas se remettre en cause devant les juges, que ce soit Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran, n'ont jamais été en capacité de dire « on s'est trompé, on aurait pu faire mieux ». On est faillible. C'est tout simple, ça s'entend. Eh bien non, c'était circuler, il n'y a rien à voir. Par ailleurs, de quel droit vous posez ces questions-là, etc., etc. Comment voulez-vous préparer une prochaine pandémie avec ce type de réflexion ?
C'est le moins sans doute qu'on puisse dire. Je renvoie les auditeurs à votre enquête secrète au cœur du pouvoir. Ça, c'est le sous-titre « Les juges et l'assassin » aux éditions Flammarion. Merci.
Merci.
Et merci également à vous, Tara Schlegel. C'est un dossier exceptionnel, tant par son ancienneté que son ampleur, sa complexité. Le versement légal, il y a maintenant plus de 30 ans, de commissions colossales en marge de contrats d'armement, revenu ensuite en France sous la forme de rétro-commissions illégales, cette fois-ci, qui aurait alimenté la campagne présidentielle d'Edouard Balladur en 95. Et bien hier, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de 5 prévenus pour leur rôle dans ce système de commissions occultes, parmi lesquelles le sulfureux intermédiaire Ziad Takieddine. En revanche, Nicolas Bazir, ancien directeur de campagne de Balladur, a lui été relaxé. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par le retour de la pluie sur le nord-ouest et le sud-est. Partout ailleurs, le ciel restera le plus souvent couvert. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.